Il s'appelle Clément Borderie. Son père est tout simplement André Borderie, l'un des trois artistes qui a bâti cette maison incroyable. Clément, tu me dis si je me trompe, hein, il est diplômé des Manufactures Nationales des Gobelins, Mobilier National de Paris, et il habite à Paris. Alors, il est un artiste vraiment exceptionnel qui réalise des installations spectaculaires. Il va nous en parler, il en parlera bien mieux que moi. Mais son travail consiste à créer des installations qu'il laisse dans la nature et à regarder le temps qui passe, le temps de la nature, le temps qui imprime. Toute l'intelligence de Clément est d'essayer de comprendre comment justement le temps fonctionne et comment est-ce qu'il peut produire des œuvres d'art iconiques. Les résultats sont souvent vraiment magnifiques. Pourquoi je voulais que Clément soit là aussi ce soir, c'est qu'il a été l'un des premiers à croire dans le projet du bateau Yves, dans notre projet, à nous soutenir. Il fut symboliquement le premier adhérent des amis du bateau Yves. Donc déjà, je voulais te remercier sincèrement pour tout ce que tu as pu faire déjà et puis pour ta présence ce soir. Je suis très, très ravi et honoré que tu sois là avec nous. Donc, très simple, comment est-ce que tu as rencontré le bateau Yves pour la première fois? Il faut que tu racontes ça.
Alors, je l'ai rencontré certainement, mais je ne me souviens plus à quel âge, petit, en descendant de Paris pour aller faire du ski dans une 203. Je me souviens assis au milieu, j'arrive à la maison du bateau Ivre et je rencontre la maison. Et puis Monique et Fred Gélas, ça c'était la mémoire de l'enfance, un peu plus tard. Et je suis venu bon, peut-être 5 fois, c'est tout. Mais à chaque fois, c'est une histoire de transmission entre mes parents, qui sont tous les deux artistes, et moi, c'est cette idée de la transmission. Donc, voir ce qu'ils avaient réalisé, pour moi, ça a toujours été naturel. J'ai compris un peu plus tard l'importance de la transmission, grâce à Agnès Varda, d'ailleurs, c'est ça. Qui est venu une fois dans mon atelier, qui m'a dit « Mais c'est drôle, quand je regarde tes toiles, en fait, tu es très proche de ton père. » Alors je la regarde, je lui dis « Mais comment ça, on ne fait pas du tout la même chose ?» Elle me dit « Si, pas en apparence, mais dans la recherche, dans le positionnement, dans le regard sur le vivant, le regard de la nature, ce que la nature peut nous apprendre, ce que le vivant doit nous apprendre, et cette poésie, ce mystère aussi de la vie qui, voilà, ça c'est un peu l'enseignement que mes parents m'ont donné. Et quand on regarde la maison de Saint-Marcellin, ça l'illustre très très bien puisque c'est une maison qui est pensée par rapport au positionnement, au mouvement du soleil. Et je trouve que c'est la belle leçon de l'architecture quand un architecte. Enfin, au départ, c'est une vision artistique. Vous connaissez certainement l'histoire. C'est au départ Madame Gélas qui rencontre mon père à Vaison-la-Romaine, au Coralis. Et mon père est en train de faire une déclaration sur la modernité, l'architecture et l'objet, de ne pas s'attacher aux objets parce que c'est l'armoire de mamie, sauf si elle est belle. Voilà. Et si elle n'est pas belle, on la fout en l'air et on achète quelque chose de contemporain. Ce qui ne condamne pas l'ancien. Mais l'idée, c'est l'harmonie. Et l'harmonie, on la trouve dans le vivant, on la retrouve dans la nature. Et voilà, tout ça, tout cet enseignement fait que, je ne sais plus où j'en étais.
T'en étais à Vaison-la-Romaine quand ils se rencontrent.
Voilà, donc ils se rencontrent, ça c'est l'histoire. Et elle confie à mon père la commande de la maison. Là, il lui explique une chose extraordinaire, il fait partie d'une communauté d'artistes. Et là, je voulais vous parler de ça, parce que pour moi, c'est ça qui est important. On n'a pas l'habitude, dans le monde de l'art, chacun tire la couverture à soi. Le travail d'un artiste, c'est le travail d'un artiste. Alors, qui fait quoi dans le bateau Yves? Qui a fait quoi? On s'en fout. On s'en fout parce qu'il faut savoir qu'après la guerre, ils sortaient d'une grande blessure. Ils se sont rassemblés autour d'une pensée communautaire, plus qu'un collectif. C'était une pensée communautaire où ils partageaient absolument tout. Et ça, c'est ce que j'aimerais qui rentre dans vos mémoires, c'est le bateau Yves, ça symbolise vraiment une œuvre collective, une œuvre communautaire de ces, trois artistes. Vera, bien sûr, qui elle connaissait la céramique, c'est elle qui est arrivée de Hongrie avec le savoir-faire, qui a appris la céramique à mon père, qui était peintre au départ, qui est devenu un grand céramiste après, enfin, mais ça démarre à ce moment-là, après-guerre, et Pierre Sekeli, qui était plutôt sculpteur, lui. Et cette histoire, c'est pour ça que c'est toujours signé, il y a le B au centre, BSZ, ou SZB, comme
on
veut.
Qui est sur la dalle, je précise, dans l'entrée de la maison. Voilà, et qu'on retrouve un peu partout dans la maison.
Toutes les œuvres sont signées, pas par un artiste, mais par les trois artistes. Même si chacun a fait des choses. C'est ça qui est intéressant, c'est l'harmonie, encore une fois, de ces trois artistes qui, pendant 8 ans, ont co-signé chaque œuvre. C'est extraordinaire parce que ça n'existe quasiment pas dans l'histoire de l'art. Bon, après, il y a eu 2 ans de guerre. Mais il y a eu 8 années de création d'une beauté incroyable. Voilà, c'est ça que je veux. Moi, je veux qu'il reste ça, cette belle aventure du bateau ivre qui symbolise complètement ce voyage, d'ailleurs.
En voyant les photos, je me dis que j'ai fait un grand oubli. C'est Philippe Jousse qui devait être présent parmi nous ce soir. On en dira 2 mots, mais on l'excuse. Et voilà, je crois qu'il était très malheureux de ne pas pouvoir être présent ce soir. Mais il n'échappera à personne que Donald Trump a été élu. Et le marché américain est un des marchés principaux du design français. Et qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour ces galeries parisiennes. Donc il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et il devait rester à Paris, malheureusement. Mais on peut quand même dire 2 mots. Qu'est-ce que Philippe Jousse a été à la céramique de ton père ? Et puis aussi, la magnifique monographie dédiée à André Borderie en 2 tomes. Il y a dans le premier tome beaucoup de pages consacrées au bateau ivre à Saint-Marcellin et puis un texte de Monique Jelas, vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer le regard qu'a eu Jousse sur la céramique Borderie ?
Alors Jousse a découvert André Borderie il y a... À l'époque, il était encore au puce avant de devenir un grand réaliste.
Jousse est galeriste.
Oui, il est galeriste.
Il y a 3 galeries, donc une galerie, c'est là où on vend du mobilier. Et puis maintenant, il a même des galeries dédiées à l'art contemporain.
Bah, sa première galerie, il l'avait au Puce. Ensuite, il s'est installé dans le 13e, dans la Bastille, ensuite rue de Seine et aussi dans le Marais. Donc il a tout un pan sur les années 50-60. Son fils a repris d'ailleurs 70, 80, 90. Il travaille d'ailleurs avec Martin Sekeli, Mathias. Et donc Philippe a découvert Prouvé. Donc c'est intéressant parce que le toit de la maison de Saint-Marcellin était le toit Prouvé. Prouvé est connu aujourd'hui internationalement grâce à Philippe Jousse, qui est l'expert officiel en France. Maintenant, toute la rue de Seine monte de Prouvé, mais lui, le premier, c'était il y a 40 ans. Voilà. Et en même temps, il ne savait pas d'ailleurs le rapport entre les deux, il ne connaissait pas la liaison avec André Borderie. Il s'est mis à acheter des pièces d'André Borderie pour sa collection personnelle, bien avant de s'en occuper. Et il y a 20 ans, il a commencé un travail sur André Borderie et il l'a mis comme un des plus grands céramistes des années 50, en le plaçant dans tous les musées, enfin là, et les grandes collections privées. Voilà, donc Philippe, c'est regard sur la céramique d'André Borderie et surtout la reconnaissance de son œuvre en céramique. Voilà, donc ça, c'est important. Et il se trouve que, de fil en aiguille, il a monté une galerie dans le Marais et c'est devenu mon galeriste aussi. Donc vraiment, les Borderies, il est abonné, quoi. Et il commence à regarder le travail de ma fille, qui est artiste aussi. Encore une histoire de transmission.
Et alors, le clan Borderie, moi, j'aimerais bien qu'on en dise 2 mots, puisque c'est, on dit un peu, c'est le clan.
Oui,
artistes.
Il y a le mot clan qui nous permet de rigoler, parce que c'est pas clanique. Ou si c'est un clan ouvert, c'est pas un clan fermé. Mais on aime bien jouer avec ça, oui.
Mais ce qui m'intéresse, c'est le lien avec André Borderie et cette maison, en fait, du bateau ivre. Elle a un lien très fort avec la nature, par les motifs, par exemple, de la fresque qui est dans le salon, par la manière dont le jardin a été pensé par rapport à l'intérieur et l'intérieur extérieur, etc. Et toi aussi, en fait, ton travail, un dialogue permanent avec la nature. Donc, moi, je me dis que André Borderie, il y a un lien aussi, une filiation là, très forte avec toi et avec ton travail.
Ben c'est ce que je disais tout à l'heure avec le regard d'Agnès Varda, qui est un regard extérieur. Elle m'a dit, mais ton père, c'est l'observation de la nature, toi, c'est la nature. Ton père s'inspirait de la nature, toi, tu travailles avec elle. Ce qu'expliquait tout à l'heure, c'est que j'installe effectivement des toiles dans des endroits où l'espace et le temps se rencontrent et créent de l'énergie. Et cette énergie, en fait, se fixe sur mes toiles et finalement, au bout d'un certain temps, ça peut être un an, 10 ans, crée par l'épaisseur du temps une image. Donc, en fait, je ne touche pas mes toiles, je les installe et je les récupère quand elles sont mûres, comme un paysan le ferait quand la moisson est prête. Voilà. Donc, j'ai ce rapport à la nature. Effectivement, c'est mon père qui me l'a transmise, et ma mère aussi, parce qu'elle était artiste aussi. On n'en parle jamais, mais parce qu'elle n'a jamais voulu qu'on en parle. Mais elle a peint toute sa vie, elle a fait de la céramique, elle a fait tout ça. Voilà. Maria Borderie, donc, qui a fait que 2-3 expositions dans sa vie, mais qui était tous les deux, André et Maria, c'est les deux, l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas, quoi. Ils ont toujours fait toute leur vie ensemble. Et ils m'ont transmis, effectivement, ce regard sur la nature. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, ma fille travaille sur un pan de l'art et la science, art et sport et art et science. Mais art et science, elle travaille avec des scientifiques, des géologues, elle travaille avec la nature, elle aussi, à travers la vidéo et la sculpture. Donc en fait, ça fait 3 générations, et encore une fois, si on remonte au bateau ivre, on est vraiment dans un exemple parfait pour ce point de vue sur le regard et sur l'importance. C'est pas une maison plantée là, comme ça. C'est une maison qui s'intègre au vivant, qui s'intègre à la lumière, au mouvement de la lumière, enfin, toutes ces données-là qui sont à l'époque très moderne, on est en 50. Bon, tout ça, c'est nourri, il faut savoir, par les constructivistes et les suprématistes. On est dans la modernité du XXe siècle. Hein. Parce que mon père était fan de Paul Klee, par exemple. Voilà. Ça a été même, pas seulement fan, ça a été le déclic de sa vie. Il est tombé sur les quais sur un petit bouquin de Paul Klee, il a arrêté son travail d'ingénieur en télécommunication et il s'est mis à faire plus que ça, quoi. De la céramique, de la peinture, de la sculpture. Voilà. Donc la filiation, elle remonte au début du XXe siècle. Parce que ces artistes, eux aussi, regardaient comment était construit une pierre, un mur, une roche, pour comprendre et faire de l'architecture et de la propagande, d'ailleurs, chez eux, avec un souci toujours d'énergie. L'énergie, c'est ce qui permet de faire passer les choses. Et ces artistes ont toujours eu un regard sur la force du vivant. Voilà.
Pour aller encore plus loin, j'aimerais que tu expliques un petit peu ton travail. Moi, je pensais parler d'une... Puisqu'on est à Saint-Marcellin et qu'on est entouré de vaches, et que l'autre emblème, c'est pas le bateau Yves, c'est le petit fromage. J'aimerais que tu racontes... Alors, il y a différentes choses. Je te laisse choisir. Mais moi, j'aime bien les blocs de sel qu'après, tu as fait en immense.
Une architecture.
Voilà, et tu en as fait une piscine. Ça, j'aime bien, si tu peux expliquer ça.
Alors, je vais être rapide.
Oui.
Essayer d'être rapide. Les pierres de sel, c'est venu d'une maison que... non, même pas. Enfin, bref, c'était une promenade dans la Meuse et ensuite en Auvergne. J'ai vu un petit point blanc très loin en me promenant dans les hauteurs, au milieu de la verdure. Et il se trouve que la Jeep dans laquelle j'étais, j'étais en résidence, descend vers ce point blanc qui m'obsédait. Et à un moment, dans le virage, on est arrivé au point blanc. J'ai dit stop, je suis descendu, je suis passé par-dessus la barrière pour aller voir ce truc que je ne connaissais pas en tant que villageois. Et en fait, j'ai vu cette pierre de sel qu'on donne aux vaches comme complément alimentaire. Et il se trouve que cette pierre de sel était formidable. Elle était creusée par les langues comme un sculpteur pouvait faire avec sa gouge. C'était une pièce superbe, donc je la prends. Le gars avec qui j'étais me dit « Mais tu peux pas faire ça, on vole pas le sel aux paysans comme ça. » Je l'emporte quand même et je dis « On va chez le paysan. On va lui acheter son bloc. » Et là, sur la nappe cirée de la cuisine, avec la pierre de sel, je montre au paysan la beauté de sa pierre de sel. Et je lui donne la gabelle. Enfin, la gabelle. J'ai payé mon morceau de sel, je suis reparti avec... Je reviens à Paris, je l'installe sur une étagère, elle reste peut-être 7 ans. Mais je n'en faisais pas œuvre. Elle me faisait plaisir, mais je ne l'assumais pas encore en tant que... Puis après, j'arrive en Auvergne, et là, je rencontre un paysan, et l'histoire commence avec les pierres de sel. J'en récolte 200 en 10 ans, Et j'en sélectionne 30 que j'ai numérotées parce qu'elles ont toutes leurs particularités. Et il y en a une que j'agrandis 200 fois et j'en fais une piscine dans laquelle on peut se baigner tous les étés en Auvergne.
Mais c'est magnifique, hein. Parce qu'on n'a pas du tout idée lorsqu'on voit l'œuvre, enfin cette piscine en photo qui est dans tes livres que tu as amené,
ouais.
Très bien nommé, le laisser faire. Et on n'a pas du tout idée de l'origine, et c'est toute la force du travail de Clément que je vous invite à regarder dans ces monographies qui viennent de sortir. C'est que le résultat de ces toiles naît souvent de ces installations incroyables, mais on n'a pas idée de comment ça peut venir, et parfois même, tu vois, tes toiles...
Moi non plus.
Ouais. On a l'impression que c'est du Rothko, et en fait, pas du tout. C'est toi, et ça a été fait par des vaches, par des projections, par tout un tas de choses.
Ben, oui, c'est-à-dire je laisse faire, que ce soit une toile installée sous un arbre ou sur un pan d'architecture, ou dans un champ, une pierre de sel, ou avec une caméra. Je l'installe sur le dos d'une vache, par exemple, et je la laisse courir. Et les films se font, en fait, tout doucement. Mais les toiles, je n'interviens pas dessus. Les pierres de sel, je n'y touche pas. Je les récupère, c'est tout. En fait, je m'approprie des choses qui sont faites par soit une mise en scène que je mets en place, soit que je trouve comme ça. La pierre de sel, je la trouve. Hein, quand je travaille avec un arbre, je ne fais pas de mise en scène. Je m'approprie un arbre, je mets une toile autour, j'attends deux ans, trois ans. Voilà. Et le titre, ce mot « laisser faire », qui est mon concept, en fait. C'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est Philippe Jousse, là aussi. Au moment de faire une exposition importante, il y a 3 ans, il me dit, il faut trouver un titre. Alors, en rigolant, il me disait, tu fous rien. Mais enfin, ça va pas. Ça fait pas sérieux. Et ça nous faisait rire entre nous. Bon. Et tout d'un coup, il me dit, le laisser faire. Et voilà, c'est resté. C'est le titre de la monographie. C'est le titre des expositions que je fais maintenant.
Eh bien, peut-être que, Clément, un jour, tu viendras installer dans le jardin de la maison.
Avec grand plaisir. Sur les traces de mon père et de Vera, ça me plairait beaucoup.
Oui. Moi aussi, je crois. Bon, ben merci beaucoup, Clément, pour ce petit court moment qui a introduit cette soirée. Je crois qu'on peut l'applaudir chaleureusement.
Merci.
Et maintenant, j'appelle notre deuxième invité, qui est écrivain, Aurélien Bélanger. Vous pouvez l'applaudir.